14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
On ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il a souffert, s'il a eu peur de savoir la vérité avant de partir dans la tombe.
Bonjour, il arrive que des enquêtes trébuchent. Il est rare qu'elles connaissent le naufrage. C'est pourtant ce qui s'est passé avec l'affaire Paquita Parra, une jeune femme de 30 ans assassinée dans des conditions jamais élucidées. À l'hiver 1998, en Charente, des investigations bâclées et chaotiques qui vont laisser dans le désarroi et l'interrogation toute une famille. Une mère, des frères qui veillaient depuis toujours avec affection sur la jeune femme. 23 ans d'un épais mystère, des pistes perdues, des témoins oubliés, d'autres qui n'ont jamais eu le courage de parler. Après une si longue attente, la justice qui a rouvert l'enquête semble aujourd'hui décidée à rattraper le temps perdu, à remettre dans l'ordre les pièces éparpillées d'une énigme qui, on va le voir, n'a pas été avare de rebondissements et pourrait en connaître d'autres. Alors, l'affaire Paquita Parra sera-t-elle résolue? Pourquoi la loi du silence règne autour de cet assassinat? Pour répondre à ces questions, nos invités, témoins et acteurs de ce dossier.
14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Paquita Parra, cette jeune femme au sourire éclatant, célibataire, habitant en Charente, ne s'était jamais faite remarquer jusqu'à ce qu'on la découvre à l'hiver 1998, assassinée de la pire des façons. Ce vendredi 4 décembre 1998, peu après 3h du matin, deux gendarmes de la brigade de la Couronne traversent le bourg désert et endormi de Puy-Moyen, en Charente. Une patrouille ordinaire. Les gendarmes bifurquent vers la vallée des Eaux Claires, des falaises blanches qui, le jour, sont le rendez-vous des amoureux de Varappe, la nuit, celui des amoureux tout court. La patrouille déboule sur la carcasse d'une Fiat Uno de couleur rouge qui finit de se consumer sur un petit parking. De la fumée s'échappe encore des pneus. Le brasier a été intense, sans doute une voiture volée. Les gendarmes notent tout de suite, à proximité, la présence du pare-brise. Il a été méticuleusement enlevé pour accélérer la combustion. Les portières sont verrouillées, les vitres ont explosé sous l'effet de la chaleur. En s'approchant, les militaires découvrent un corps, en partie carbonisé, celui d'une femme installée côté conducteur. La clé est encore sur le contact. Impossible en l'état de l'identifier, mais la Fiat est celle d'une certaine Francisca Parra Palmero, âgée de 30 ans, habitant Villebois-Lavalette, à une vingtaine de kilomètres, une jeune femme que tout le monde connaît sous le nom de Paquita Parra. Les experts examinent la carcasse du véhicule. Tout relevé d'empreintes à cause du brasier s'avère impossible. Ils notent la présence d'allumettes et d'un produit inflammable à hauteur des pédales. C'est probablement de là que le feu est parti. Il est également établi que le siège conducteur est reculé à son maximum alors que la victime est de petite taille, environ 1,65 m. En dépit des doutes qui entourent cette mort, aucun périmètre de sécurité durable n'est vraiment établi. Les abords du parking ne seront jamais vraiment fouillés à la recherche d'objets ou d'indices. Le médecin légiste, au regard de l'état du corps, est incapable de dire de quoi est morte Paquita Parra, seule certitude. Celle-ci n'a pas inhalé de fumée et de vapeur toxique due à l'incendie. Elle était déjà décédée quand le feu a débuté. Pas un suicide donc, mais un assassinat. En bonne et due forme, tout a été fait pour effacer les moindres traces. Le décès a sans doute eu lieu dans la soirée du 3 décembre, quelques heures avant la découverte des gendarmes. Paquita Parra, belle jeune femme brune, souriante, décontractée et amicale, travaillait depuis 10 ans dans les services administratifs de la base logistique des magasins Intermarché à Roulé-Saint-Estèphe. Elle avait acheté une maison rue de l'Église à Villebois-Lavalette et avait souscrit pour cela un emprunt sur 20 ans. Elle était célibataire et entretenait depuis quelques mois une relation avec un homme de son âge travaillant pour la même enseigne. Chacun toutefois vivait de son côté. Selon ses 5 frères et sa mère, une famille d'origine espagnole totalement effondrée, Paquita n'excluait pas de fonder un jour ou l'autre un foyer, même s'il connaissait depuis longtemps son goût pour la liberté et l'indépendance. La jeune femme sortait fréquemment, avait beaucoup d'amis et aimait faire la fête. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre parmi ses connaissances? David Parra, l'un des frères, confie au journal Sud-Ouest « C'est comme si on nous avait coupé un bras, on ne s'en remettra jamais. On vit depuis le 4 décembre dans une situation irrationnelle. Nous n'avons même plus la notion du temps. » Et voilà donc pour le tout début de cette enquête dont nul ne se doute à ce moment-là qu'elle va être interminable. Cette scène de crime sur ce parking retiré dans la région d'Angoulême. David Parra, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime et vous êtes, je viens de le dire d'ailleurs, le frère de Paquita Parra. Et vous suivez évidemment cette enquête depuis le début. Je vais vous poser une question toute simple. Paquita Parra, c'est une fille, jeune femme, indépendante. Elle a sa vie. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas sur ce parking des Eaux Claires ?
C'est la question, puisque le début d'une affaire criminelle, on le sait tous, et reste l'importance c'est pour découvrir la manifestation de la vérité. Pour moi, personnellement, Anne n'est pas allée toute seule, et je ne sais même pas si elle s'y est rendue de son vivant sur ce parking totalement austère, totalement lugubre. Un 3 décembre au soir. Travaillant le lendemain, puisque nous étions un jeudi soir, et le vendredi, elle a toujours été à l'heure à son travail. Donc, elle ne s'est pas déplacée toute seule à cet endroit-là.
Dites-nous quelques mots sur Paquita. Je l'ai dit, elle a 30 ans, Paquita Parra. Donc, elle sort, elle s'amuse, ça c'est tout à fait normal, c'est dans sa vie. Mais elle a aussi une vie très rangée. Vous l'avez dit, elle va à son boulot tous les jours. Elle a cette maison qu'elle vient d'acheter. On ne peut pas dire que ça soit quelqu'un qui ait sans arrêt des mauvaises fréquentations ou qui mène une vie parallèle.
Loin de là, elle a 30 ans. Les amies féminines qu'elles avaient et quelques amis masculins restaient des cercles assez fermés, puisqu'à 30 ans, elle n'avait plus la fougue d'une jeune fille de 15-16 ans à se retrouver dans des endroits de hasard. Je connaissais moi-même les relations qu'elle avait. Et de plus, en semaine, puisque le crime, l'assassinat, s'est déroulé un jeudi soir, elle ne sortait pas en semaine. Donc elle n'était pas dans un contexte de fête ce soir-là. Elle avait un rendez-vous qui n'est peut-être pas forcément sur ces lieux une nouvelle fois lugubre.
Alors, hormis la stupéfaction de ce crime et la douleur qui va s'emparer de toute votre famille, qui est une famille très unie, il faut bien le répéter, vous ne comprenez pas. Ce crime, il est totalement incompréhensible. Il n'y a eu aucun signal qui permettait de dire que peut-être il arriverait quelque chose de mal à votre sœur.
Eh bien, dans les jours qui ont précédé, dans les mois qui ont précédé, on s'est peut-être rendu compte d'un comportement un petit peu anxieux qu'elle montrait. Mais étant donné que nous communiquions très très bien dans la famille, que nous communiquons dans la famille, si une chose extrêmement grave ayant pour conséquence cette situation que nous avons connue le 3 décembre 1998, elle nous en aurait fait part. Et si vraiment, là je la connais très bien parce que j'étais très proche d'elle, si vraiment elle avait été menacée physiquement ce soir-là, la connaissant, elle se serait barricadée chez elle et ne serait surtout pas sortie. Visiblement, elle est sortie selon les témoignages qui
donc
qui
elle est sortie en confiance finalement.
Elle est sortie en confiance. Elle devait sans doute vouloir régler certains problèmes qui semblaient pour elle pas forcément dangereux pour en arriver à un stade de sauvagerie comme ça a été. Oui, elle est sortie. Autrement, elle ne serait pas sortie. Je la connais. Elle serait restée chez elle et elle aurait fait appel à nous.
Et elle aurait fait appel à vous. Bonjour, maître Christine Maze.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate de la famille Parra, vous êtes bâtonnière du barreau de Bordeaux et vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Bordeaux avec Philippe Demaria qu'on salue chaleureusement et qui nous aide à établir cette liaison et à obtenir votre témoignage. Maître Maze, vous suivez parfaitement cette affaire et ces rebondissements qu'on va raconter dans cette heure du crime. Première question, j'ai rapidement parlé de cette scène de crime. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été rapide, les explorations. Finalement, on n'a pas tout regardé autour de cette scène de crime. Il y a plein de choses qui ont été oubliées.
Oui, puis je crois que c'est... vous savez, quand une affaire part mal, elle est difficile. Hein. On le voit dans d'autres dossiers, avec des constatations techniques qui sont souvent manquantes et qui ne peuvent pas se retrouver. On ne retrouve pas les premières constatations. On parlait tout à l'heure d'autopsie. Il faut savoir que le corps de Paquita n'a pas fait l'objet d'autopsie. Alors même qu'en 1998, l'autopsie a tout à fait lieu de manière scientifique.
Alors là,
sur un corps carbonisé.
Il faut nous expliquer, Maître Maze, parce que là, je ne comprends pas. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'autopsie, mais c'est impossible
non,
en matière criminelle.
Non, il n'y a pas eu un acte d'autopsie. Il y a eu une vérification du corps qui est à valeur, on va dire, d'autopsie de l'époque, mais qui n'avait pas, et c'est ce qu'on va découvrir par la suite, hein, dans le cas du dossier, lorsque notamment j'arriverai dans le cadre de cette affaire, où je constaterai que dans le cadre des opérations techniques, la vérification du corps qui a eu lieu par un médecin légiste n'a pas été complète et n'a pas fait l'objet d'un véritable rapport d'autopsie en bonne et due forme. Et ça, c'est déjà une carence extrême qui a d'ailleurs amené, ça vous allez y revenir un peu plus tard, à permettre, sur ma demande d'ailleurs au juge d'instruction, d'ordonner l'exhumation du corps de Paquita pour revenir avec des techniques nouvelles, des techniques que nous avons aujourd'hui, pour pouvoir vraiment réinvestiguer cet élément qui demeure franchement catastrophique pour moi. Hein. Ça, c'est véritablement un point important.
Tout à fait. Alors, il y a ce point important, et vous faites bien de le souligner. Évidemment, ça m'avait échappé, moi, cette histoire d'autopsie bâclée, d'examen rapide. Et c'est très important de le souligner. Parlez-nous encore un mot, Maître Maze. Cette scène de crime, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je la regarde comme ça et quand je la lis, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de presque professionnel.
Ah ben, si vous voulez, lorsque nous la regardons à l'époque et lorsque nous la regardons maintenant et lorsque, vous savez que ce dossier a été réouvert, vous allez évoquer tout ça, nous avons aujourd'hui la certitude que la mort de Paquita, l'assassinat de Paquita a été quand même réalisé par des personnes, ou une personne, ou des personnes, nous n'en savons rien, qui ont quand même un degré de criminalité qui laisse penser qu'on est sur... alors je veux pas parler forcément de grand banditisme, parce que cette notion-là, il faut faire attention à ce que l'on dit. Il faut, mais par contre, des professionnels, parce que venir brûler un véhicule avec un corps dedans, c'est quand même très révélateur d'une action criminelle absolue et qui démontre qu'on est vraiment sur des personnes ou une personne qui est capable d'un passage à l'acte tel qu'on est vraiment sur, à mon avis, une orientation très très particulière,
une méthodologie, qui appartient au grand banditisme, on peut le dire comme
alors
ça.
Une méthode, alors le grand banditisme, on va pas généraliser parce qu'il faut faire attention à tout ce que l'on dit, dès lors que en effet nous devons impérativement plus que jamais être prudents dans ce dossier, mais il est évident que ce n'est pas courant. Est-ce qu'on le voit de manière habituelle? Non. Est-ce que on le voit dans des dossiers où il y a des règlements de compte? Oui. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est très parlant. Alors, à l'époque, évidemment, Paquita a une vie saine. Paquita, elle n'a pas dans sa vie d'éléments qui laissent penser qu'il y a peut-être la possibilité pour elle d'être, à un moment donné, la cible d'un règlement de compte.
Bien sûr.
Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très investi. qui doit être investigué. Je vais vous dire pourquoi doit, puisque...
Et vous allez nous le dire dans l'heure du crime, dans le chapitre suivant, puisqu'on va raconter évidemment le mystère qui entoure encore cette mort de Paquita Parra. Est-ce qu'on a voulu la faire taire? Qui sait, c'est une possibilité aussi. Les mois vont s'écouler, des investigations tout aussi discrètes que difficiles. L'entourage de la victime va révéler la présence d'un homme qui pouvait peut-être lui en vouloir, un simple suspect qui, pour la justice, va devenir le suspect numéro 1.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'assassinat de Paquita Parra. Cette jeune femme a été retrouvée morte dans sa voiture incendiée en décembre 1998. 9 mois plus tard, un suspect très intéressant, selon les enquêteurs, va être interpellé. Depuis les premiers jours de l'enquête, les gendarmes estiment que Paquita Parra avait sans doute rendez-vous avec son meurtrier, quelqu'un qu'elle connaissait. Selon ses proches, Paquita était une jeune femme certes habituée à voir du monde, mais qui ne serait pas partie avec un inconnu. Elle était trop craintive et méfiante pour cela. L'entourage de la victime est ainsi passé au crible par les 7 enquêteurs qui travaillent sur le dossier. Apparaît dans le paysage un ancien petit ami, Franck C., un artiste peintre alors âgé de 29 ans, un garçon peu apprécié des frères de Paquita. Il se serait parfois montré violent avec elle. Selon les témoignages recueillis, il apparaît que Franck n'aurait pas supporté la séparation avec la jeune femme. Il aurait ainsi affirmé que s'il faisait un jour quelque chose contre Paquita, personne n'en saurait rien. Qui plus est, les enquêteurs indiquent avoir retrouvé un tube de gouache dans la Fiat carbonisée, un tube de peinture qui aurait pu lui appartenir. Franck était en retard à son travail au matin du 4 décembre, jour de la découverte du corps. 28 septembre 1999, Franck C. est placé en garde à vue pendant moins de 48 heures. Face aux gendarmes, l'ex-petit ami dément farouchement avoir tué Paquita. Il fournit également son emploi du temps la nuit du meurtre. Entre 19h et 1h du matin, il s'est rendu chez des amis. Ces derniers ont confirmé sa présence. Malgré ces éléments et l'absence de preuves, les enquêteurs estiment tenir le principal suspect. Conviction faite à la lecture d'un rapport envoyé par fax par Michel Agrapard Delmas, considérée comme l'une des meilleures profileuses françaises. Cette criminologue vient alors d'être désignée comme experte par la juge d'instruction d'Angoulême, Elisabeth de Sancière-Ferrandière. Michel Agrapard Delmas n'a jamais rencontré le dénommé Franck C., mais son rapport est accablant. Elle le présente comme une personnalité totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier sous le coup d'une frustration, d'une rupture ou d'un rejet. L'experte téléphone même aux gendarmes pendant les interrogatoires. Ses conclusions font du suspect un coupable à part entière. À l'appui de ses certitudes, la juge le met en examen pour assassinat et le place en détention provisoire. L'artiste peintre Franck C. va passer 10 mois en prison. Son avocat, maître Daniel Lalanne, met en cause l'intervention de la profileuse dans le dossier. Il menace de demander sa radiation. La juge d'instruction, Elisabeth de Sancière-Ferrandière, est également accusée de partialité. Elle sera récusée par la chambre de l'instruction de Bordeaux. Il existait des présomptions graves. Il n'y avait pas besoin de cette expertise. L'instruction a été saccagée, déplore l'avocate de la famille Parra, maître Christine Maz. 1er octobre 2002, la mise en examen de l'ex-petite amie est annulée. 4 ans après le crime, le dossier revient à son point zéro. Et maître Christine Maz, je viens de citer vos propos à l'époque. L'instruction a été saccagée, c'est ce que vous dites. Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Bordeaux et invité dans l'heure du crime. Vous avez toujours ce sentiment, avec ce détour qu'a fait cette enquête, avec cette interpellation de Franck C. en 1999 ?
Bien oui, parce que pendant le temps qu'on passait à régler les problèmes juridiques, on va dire, hein, de cette procédure d'instruction qui n'avait en aucun cas besoin de cet avis de cette psychocriminologue qui est venue véritablement gâcher tout le travail qui était fait, eh bien on a oublié le fond du dossier, on a oublié l'enquête, on a oublié des pans entier de travail. Et ce qui me navre, c'est que dès le départ, on a une orientation parcellaire du dossier. Pourquoi ? Eh bien parce que on a un suspect. Bon, ce suspect, il y avait des éléments, en effet, qui pouvaient laisser penser qu'il y avait matière sur ce dossier. Et le fait de cette erreur procédurale majeure, qui est cette psychocriminologue qui rentre dans ce dossier, qui vient faire n'importe quoi, parce que
avec des gros sabots,
on ne peut pas faire n'importe quoi, si vous voulez, dans une affaire criminelle. Il y a le juge d'instruction conduit son dossier, le procureur de la République surveille, les enquêteurs travaillent, les avocats de part et d'autre font leur travail. Et puis tout est venu saccager cette piste. C'était une piste importante, mais comme d'autres pistes, et comme on est venu pendant des mois, travailler sur ces problèmes de procédure, eh bien on a oublié le dossier, et le juge d'instruction, qui a ensuite été récusé pour un autre juge d'instruction, eh bien n'a pas peut-être eu cette capacité de réorienter les investigations pour qu'on puisse travailler sur toutes les autres pistes. Et c'est souvent ce que l'on voit. Il n'y avait pas de la part de ce juge d'instruction la volonté de mal faire. Il y avait la volonté sans doute de peut-être trop bien faire, de venir chercher des appuis dont elle n'avait absolument pas besoin et qui a vicié la procédure. Et c'est comme ça que j'ai parlé de fiasco judiciaire, parce qu'on s'est retrouvé face à un abîme et une maman de Paquita qui vieillit avec le dossier et qui n'arrive pas à savoir qui est le meurtrier de sa fille, ce qui est dommageable.
Voilà. Alors, Maître Maz, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, l'enquête, elle est un petit peu mise entre parenthèses.
En sourdine.
Et pour la famille, et pour vous, les frères, pour David Parra, qui est aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime, c'est les montagnes russes, là. Parce que ce suspect qui est arrêté, vous le connaissez. Quel est votre sentiment quand vous savez que cet homme est interpellé?
Alors, c'est le profil d'un coupable idéal, entre guillemets. Cela dit, le matin de la découverte du corps de Paquita, et de la description du lieu dans lequel a été découvert et ce véhicule, personnellement, je pensais que ce mode opératoire ne ressemblait pas à cet homme-là.
C'est ça. Vous dites qu'en gros, cet homme-là, il ne pouvait pas commettre un assassinat de cette nature.
J'ai toujours, et depuis le début, et je ne cesse de le dire, bien que je évidemment que ce n'était pas le profil de beau-frère que j'aurais voulu avoir, puisqu'il était systématiquement dans la violence, et puis bon, pas du tout.
Mais ça n'en fait pas pour autant un assassin.
Absolument. Et une nouvelle fois, cette pratique, ce mode opératoire, ainsi que vous le disiez tout à l'heure, proche de professionnels, comme disait Maître Maz également, ne ressemble pas du tout à cet état de farfelu, puisque pour moi c'est un homme farfelu, avec quelques qualités dites artistiques, mais je ne croyais pas du tout en lui, puisque lorsqu'elle a eu... lui est arrivé des moments de crainte de cet homme. Elle m'avait alerté, et elle, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, se barricadait chez elle. Et ce soir-là, elle n'allait certainement pas, en plein hiver, aller dans un endroit, rejoindre un homme dont parfois l'état de démence pouvait vraiment l'effrayer.
Elle ne vous avait pas parlé récemment, avant sa mort, de ce Français, d'une nature ou d'une autre?
Non, elle était censée l'avoir quitté, du moins c'est ce qu'elle nous avait dit au début de l'été. Nous avons vu ensuite dans le dossier qu'elle le revoyait. Donc ça a été une surprise.
Relation peut-être un peu compliquée, mais qui encore une fois n'amène pas forcément directement à cette scène de crime. Encore un mot, Maître Christine Maz. Un nouveau juge là va être nommé, donc il s'appelle Jean-Luc Gadeau. On peut dire qu'il y a peu de pistes. Est-ce qu'il y a des témoins déjà qui sont entendus, notamment de ce fameux incendie?
C'est compliqué à ce moment-là, parce que y a un moment où ce dossier s'écroule, voilà, sur le plan des procédures. Et quand il y a des pans entiers de procédures qui sont annulés à juste titre, parce que il faut quand même voir que moi, qui suis avocat de la partie civile des victimes, à ce moment-là, je me rends compte que on peut pas faire n'importe quoi dans une affaire criminelle. Les certitudes dans un dossier, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. Et qu'il faut investiguer sur énormément d'éléments, mais qui vont être annulés parce que les pièces de procédure vont être annulées, parce qu'elles sont infectées, on va dire, de toute cette erreur de procédure qui est liée à l'intervention de la psychocriminologue. Et c'est vrai que le temps qu'on a mis à nettoyer, sur le plan procédural, cette affaire, il fallait que les juges reprennent un dossier qui soit exempt de toute difficulté. Il y a eu un moment après de longs mois, hein, parce que là, ça dure pendant presque des années même, je dois le dire. J'ai plus encore les dates en tête, mais c'est des années sur le plan de la procédure, juste nettoyer les incidents de procédure que nous avons les uns avec les autres, et que à ce moment-là, un nouveau juge intervient. C'est compliqué. Parce que il n'existe plus certaines pièces.
Exactement. Pour se résumer, c'est un château de cartes qui s'est écroulé.
Qui s'écroule.
Il y a des cartes qui sont viciées ou qui ont été écornées et cochées. Voilà. On ne peut pas les ramasser, il faut les remplacer, c'est très compliqué. Mais juste un mot, est-ce que, par exemple, sur l'incendie de la voiture, il y a des témoignages qui existent, non? Des personnes ont été entendues.
Il y a des témoignages, bien sûr, mais c'est pas l'incendie en lui-même n'est pas...
N'apporte pas de pièces, oui, c'est ça.
Non, parce que c'est les témoignages que nous avons sur l'incendie, ce sont des personnes qui vont voir les flammes, mais qui ne sont pas en capacité d'apporter des éléments probants sur
c'est
la.
Ça,
voilà. Et donc, pour le magistrat qui suivra, ça sera compliqué pour lui de revenir sur quelque chose qui a été détruit.
Bien
voilà.
Sûr.
Le dossier, il n'a pas brûlé, mais presque. Voilà.
L'enquête va piétiner jusqu'à être clôturée par un non-lieu. En 2010, les chances de voir émerger la vérité se rétrécissent comme peau de chagrin, même si un élément capital va, des années après, relancer les investigations.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Il est temps que ça s'arrête et qu'on puisse dire « ça s'est passé comme ça, on a trouvé la personne qui a fait ça, on s'est bougé et que les frères, toute la famille, nos avocats, la justice, enfin avance et on va trouver. »
Heure du crime consacrée aujourd'hui au meurtre de Paquita Parra, jeune célibataire de 30 ans retrouvée morte dans sa voiture, carbonisée en 1998. Plus aucune piste, presque 20 ans vont ainsi s'écouler jusqu'à une spectaculaire découverte. En ce mois de septembre 2017, des élèves d'une classe de seconde du lycée Charles Coulon d'Angoulême effectuent une sortie dans les bois environnants, entre les localités de Macampagne et celle de Puymoyen. C'est près de ce dernier bourg qu'avait été découvert le corps de Paquita Parra. Les lycéens doivent retrouver des objets à vocation artistique. Au pied d'un arbre, chemin de Saint-Martin, une élève découvre une boîte en plastique rose qui contient des affaires abandonnées. Dans la boîte, un porte-chèque du Crédit Agricole, une carte de laboratoire, une carte Conforama, une carte Super G, une carte Club Dial, une carte des magasins Auchan et un vieux pull vert. Tous les documents sont au nom d'une certaine Parra Palmero, Francisca ou Paquita. Le nom ne parle pas à personne, ni aux lycéens, ni aux enseignants. L'adolescente va conserver la fameuse boîte sous son lit pendant 9 mois, sans jamais y toucher. C'est sa mère qui, après une recherche internet, va faire le rapprochement avec le crime. 15 juin 2017, la boîte est remise aux gendarmes de la section de recherche de Poitiers. 2 ans auparavant, le procureur Jean-David Cavaillé leur a donné pour mission de reprendre toutes les investigations dans le dossier Paquita Parra. La justice ne veut pas rester sur un échec. Les gendarmes ont procédé à de nouvelles auditions de témoins. Mais avec cette découverte, l'information judiciaire est désormais rouverte. Première surprise, la fameuse boîte n'est pas restée pendant 20 ans sous cet arbre. Loin de là, elle a été déposée récemment. Qui a déposé ces objets? Pourquoi s'en être débarrassé ainsi plutôt que de les avoir brûlés? Pourquoi les avoir conservés aussi longtemps? S'interroge un enquêteur dans la Charente Libre. Découverte qui conforte la relance des investigations et pourrait être propice à des témoignages inédits. La famille l'espère. Et la famille Parra, c'est vous qui la représentez aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, David Parra, l'un de nos invités dans cette émission. Cette découverte, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Est-ce qu'on sait d'où cette boîte est venue, ce qu'elle faisait là, et depuis combien de temps elle était là?
Elle a fait l'objet d'explorations scientifiques. des recherches d'ADN sur l'ensemble des éléments qui étaient dans cette boîte. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle n'est pas restée là durant les 21 années d'instruction. Elle a été déposée. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle est quand même dans le périmètre du lieu de découverte du véhicule de ma sœur, avec ma sœur à l'intérieur dedans, du véhicule. Ce qui amène à penser que, eh bien, les protagonistes peuvent probablement être dans cette circonscription. Puisque
dans tous les cas, David Parra, c'est quelqu'un qui a gardé cette boîte chez lui, dans un lieu qui n'était pas exposé aux intempéries.
Absolument, c'est une boîte qui était qui devait être cachée dans une maison, dans un appartement ou dans un garage. Ensuite, moi, je n'ai pas toutes les informations des enquêteurs et des résultats d'analyse. Je n'ai que simplement mes convictions, qui fait que je ne pense pas que ce soit le ou les meurtriers qui aient déposé cette boîte à cet endroit-là, qui est un endroit où peu passant, donc qui semble avoir été déposé un petit peu dans la précipitation. Je pense surtout à des personnes, mais je m'adresse à cette personne.
Profitez-en, allez-y.
Je m'adresse à cette personne ou ces personnes qui ont déposé ces boîtes, qui leur brûlaient les mains, ou peut-être dont elles doutaient de des personnes de leur entourage, de personnes avec lesquelles elles vivent, de se manifester de façon anonyme auprès de, si ce n'est déjà fait, mais bon, à ce jour, je n'en ai pas l'information.
Auprès des services de police et évidemment auprès de l'heure du crime, si bon leur semble, même sous manière anonyme, et nous transmettrons évidemment toutes les informations à qui de droit. Maître Christine Mas, je crois qu'il y a 3 ADN sur cette boîte, c'est ça?
Oui, alors non, les ADN que nous avons ne sont pas probants. Donc sur cette.
C'est-à-dire, c'est les ADN de la petite fille, par exemple, qui a ramassé
Voilà. Voilà, ça a été trouvé, ça a été exploré avec une exploration. Je ne peux pas vous livrer tous les éléments du dossier, bien sûr. C'est lié à mon secret d'instruction, mais qui rien n'est probant. Voilà.
Il y a tout de même, Maître Maz, pour vous, c'est quand même positif parce qu'il y a une avancée. Le procureur relance l'affaire. Là, vous avez le sentiment de respirer un petit peu à nouveau.
Alors, je vais vous dire, moi, ce qui est probant, et c'est là-dessus qui est, à mon sens, un élément important du dossier, c'est que nous n'avons jamais lâché quand le dossier a été clôturé, et tout le procureur de la République d'Angoulême de l'époque a organisé sur pas mal de demandes que nous avions faites au regard des éléments qui nous avaient été confiés, puisque la presse est quand même emparée de ce dossier, et de nombreux éléments ont pu émerger. Le procureur avait organisé la mise en place d'une enquête préliminaire, et dans le cadre de cette enquête préliminaire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans le dossier, c'est parce qu'il y a eu un événement important et qu'il a eu peut-être une peur. Alors moi, je le dis de manière peut-être abusive, mais peut-être pas. Peur d'une perquisition, par exemple, chez quelqu'un concerné.
Intéressant
que ces éléments ont été découverts. C'est-à-dire non pas qu'on aurait pu ne pas les découvrir, c'est sûr. Mais voyez, là, il y a eu une petite lueur dans ce dossier. Alors, bien difficile. Le dossier, je l'ai dit, a parlé.
J'avoue que c'est un scénario extrêmement séduisant, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la pression, il sent que les enquêteurs sont autour de lui, et il faut se débarrasser de cette boîte qui lui brûle les doigts, comme dit David Parra.
Exactement. Et je pense que dans l'hypothèse que nous avons, parce qu'évidemment, une enquête criminelle, il y a beaucoup d'hypothèses. On travaille sur des hypothèses. Les enquêteurs travaillent sur des hypothèses. Mais les avocats, l'avocat de la partie civile que je suis est avec la famille très active. Parce que, évidemment, il a fallu vraiment réfléchir. Comment se fait-il qu'à un moment donné, là, ces documents arrivent comment se fait-il qu'on puisse, à un moment donné, constater que ces documents qui n'ont pas été soumis aux intempéries, c'est-à-dire qu'ils ont été gardés par quelqu'un.
Nous ne lâchons rien, répètent les enquêteurs. Les vérifications et les auditions vont se multiplier. Le corps de la malheureuse victime va même être exhumé.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Paquita Parra. Elle avait 30 ans quand elle a été assassinée en décembre 98. L'enquête semblait être vouée à l'échec. 20 ans après, les investigations reprennent de plus belle à la recherche du moindre indice. Le 4 septembre 2019, 4 techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, le juge d'instruction Vincent Raffray, 4 des 5 frères de Paquita Parra et leur avocate, assistent à l'exhumation du corps de la victime. Celui-ci est transféré dans un autre cercueil. Il s'agit pour les légistes de réexaminer la dépouille, notamment la boîte crânienne qui présentait un éclatement sur le côté droit. L'autopsie n'avait pas pu déterminer s'il s'agissait d'un coup porté par un objet ou la conséquence de la chaleur du brasier. Les analyses vont durer 4 mois sans, semble-t-il, apporter de nouveaux éléments sur la mort de Paquita. Celle-ci est remise en terre en présence des siens. Ma mère craque, il est temps que tout cela s'arrête et qu'on lui dise ce qui s'est passé, indique alors Salvador Parra, l'un des frères. La famille de Paquita espère qu'un simple détail pourrait mettre les enquêteurs sur la piste de l'assassin. Fait troublant, il apparaît que la victime se sentait menacée. Ce 3 décembre 1998, quelques heures avant de trouver la mort, elle avait été convoquée à la gendarmerie de Villebois-la-Valette, le village où elle habitait. Un chéquier volé, lui appartenant, avait servi à faire un plein de carburant dans une station-service du coin. Lors de ce rendez-vous à la gendarmerie, Paquita Parra aurait indiqué qu'elle avait peur et qu'elle se sentait menacée. Elle aurait même demandé à être placée sur écoute au cas où l'on veuille s'en prendre à elle. Paquita n'avait livré aucun nom ou aucun indice permettant d'identifier celui ou ceux qui l'effrayaient. Elle était rentrée chez elle vers 18h30 pour en ressortir et se rendre à un mystérieux rendez-vous. David Parra, vous êtes le frère de Paquita, vous étiez très proche de votre sœur. Et cette histoire, vous la vivez encore aujourd'hui comme un drame. Il y a cette étrange menace, en tout cas ce sentiment de peur qu'elle exprime auprès des gendarmes. C'est vrai ou c'est faux cette histoire ?
Alors, nous avons appris ensuite, dans le dossier, qu'elle s'était déplacée à la gendarmerie ce soir-là suite à une convocation pour ce problème de chèque volé. Elle s'était fait voler son sac. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que elle a anticipé le rendez-vous de la date. Hein, elle est venue 2 jours avant. Et ce qui est important également dans le dossier, c'est que on pense, et ça peut avoir une nuance, qu'elle veut être sur écoute. Et en fait, il est bien précisé qu'elle pose la question de savoir comment met-on une personne sur écoute.
Ah, elle se renseigne.
Elle se renseigne. Et le gendarme qui la reçoit va dire dans son PV qu'elle avait l'air souriante, qu'il semblait normale.
Ouais, elle n'était pas stressée.
Peut-être est-ce la raison qu'elle a été conduite et qu'elle n'a pas été interrogée, malheureusement. Et cette histoire de chéquier, de sac volé, pour moi, personnellement, je pense qu'elle est tombée avec une petite association de petits malfaiteurs, de petits voyous qui sont servis de son chèque, qui l'ont manipulé. Et qu'elle voulait dénoncer cette situation, parce que se retrouvant effectivement avec une convocation pour chèque falsifié, puisque ça devait, c'était le cas, c'était des chèques alors qu'ils oui. étaient déclarés volés. Donc voilà.
De là, David Parra a tué quelqu'un de cette façon, il y a quand même un grand pas qu'il faut franchir, j'ai envie de vous dire.
Oui, parce que tuer pour des chèques falsifiés, pour un plein d'essence, comme vous le disiez, ça semble improbable, mais c'est peut-être un arbre qui cache la forêt. Peut-être qu'elle avait des choses à dire. Peut-être que justement, puisque je la connaissais très bien, à partir du moment où on faisait atteinte à son intégrité, ou du moins qu'elle risquait, elle aurait été capable d'aller nettement plus loin en matière de dénonciation.
Maître Christine Maz, bâtonnière du barreau de Bordeaux, avocate de la famille Parra et en direct depuis le bureau RTL de Bordeaux. C'est vous qui avez demandé, vous l'avez dit d'ailleurs, l'autopsie après cette exhumation, notamment sur les traces ADN qu'il serait possible de retrouver sur ce corps. Ça n'a rien donné, cette autopsie ?
Non, c'est oui, c'était important de revenir hein, sur des éléments techniques qui pourraient nous montrer, par exemple, l'existence d'un projectile dans le corps de Paquita. Vous voyez, c'est des choses qu'on n'avait pas pu investiguer à l'époque, hein, et qui, avec les techniques actuelles, le juge d'instruction a s'est fait fort de rentrer évidemment dans cette perspective d'investigation, parce qu'on a des techniques aujourd'hui qui sont des techniques de radiographie qui auraient pu permettre l'existence d'éléments qui nous aurait nous donner une autre piste. Hein. Donc voilà.
Ça ne donne rien, c'est-à-dire qu'à ce jour, Maître Maz, on ne sait toujours pas de quoi est morte Paquita Parra.
Alors, à ce jour, et sans dévoiler le cœur de ce dossier qui est extrêmement important aujourd'hui, nous avons les investigations qui sont menées vraiment de manière très importante par la section recherche de Poitiers, ont permis d'investiguer des axes d'enquête qui n'avait jamais été investigué jusqu'à présent. Tous les éléments que nous avons sont des éléments nouveaux qui n'avaient jamais surgi, et je dirais presque que le temps qui a passé a permis peut-être d'y voir plus clair, plus aujourd'hui de manière plus sérieuse dans le sens de l'enquête, on va dire, d'une enquête qui peut se faire parce qu'on passe pas du temps à se poser des questions sur des erreurs de procédure. Voilà.
Alors c'est un peu codé ce que vous dites, mais c'est normal, vous êtes soumise au secret de l'instruction.
Ah oui, je
suppose que vous avez pas envie
mon secret
de tout dévoiler, voilà. Même si je vous pousse un petit peu à en dire plus, mais en tout cas, ce qu'il y a dans vos propos, on y lit une lumière. Et ça, c'est encourageant.
Oui. J'y vois une lumière, j'y vois évidemment des as d'investigation qui sont très, très précieux. Très précieux. Et qui sont aujourd'hui ce qui aurait peut-être dû être fait à l'époque. Mais encore une fois, c'est très dur de revenir de là où nous revenons. Nous avons quelques problèmes actuellement procéduraux.
On va y venir dans le dernier chapitre, et je vous invite évidemment à rester avec nous, cher maître, et vous allez en parler de ces problèmes qui sont d'ailleurs, qui pèsent lourd sur la procédure. Les gendarmes sont persuadés que l'assassin de la jeune femme fait partie d'un cercle de proches. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes lui inspirer confiance pour qu'elle accepte de la rencontrer.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat inexpliqué de Paquita Parra, décembre 98, dans un village de Charente. Plus de 20 ans d'investigation, un ADN masculin inconnu sur les affaires de la victime, mais le coupable n'a pas été démasqué. 29 juin 2021, dernier soubresaut en date dans le dossier Paquita Parra. Quatre personnes appartenant à l'entourage de la victime, des parents et des amis, sont placées en garde à vue. Celles-ci sont questionnées, notamment sur des emplois du temps. Elles sont toutes relâchées le lendemain. Ces auditions ont permis de procéder à un certain nombre de vérifications en confrontant les déclarations des uns et des autres. Mais malgré la bonne volonté des enquêteurs, cette enquête, malmenée à son démarrage, ne peut alors pas aller beaucoup plus loin. Car l'affaire n'a plus de juge. La faute à des arrêts maladie et au manque de magistrats. Personne n'a été trouvé pour remplacer au pied levé le dernier juge en date, Vincent Raffray, muté dans une autre juridiction. La famille se retrouve à nouveau désarçonnée et impuissante face à cette situation. Le 16 décembre 2021, Salvador Parra, l'un des frères de Paquita, confie ainsi au journal Sud-Ouest. « Nous avions repris espoir et puis patatras. » On ne peut pas en rester là, alors qu'il y a des éléments nouveaux qui nous orientent vers le grand banditisme. Il y a des choses en suspens. Maître Christine Maz, en direct depuis le bureau RTL de Bordeaux, dans l'heure du crime, il y a des choses en suspens. Où en est-on déjà? Juste un petit point juridique, où en est-on? Est-ce que le juge enfin a été remplacé?
Le parquet général de Bordeaux est saisi de cette question, puisque c'est véritablement une priorité pour eux de mettre en place un juge, puisque le juge que nous avons est en arrêt maladie, et cela rentre totalement dans ce que vous avez vu hein, récemment et entendu avec les problèmes de la justice, avec le manque de moyens. J'indique d'ailleurs que sur ce dossier-là, il faudrait, je ne vais pas dire un juge à temps complet, c'est complètement ridicule, mais vraiment un juge presque dédié, vous voyez, parce que tellement la masse de travail est énorme. J'indique d'ailleurs que le juge d'instruction qui travaillait ce dossier aujourd'hui le faisait remarquablement bien, mais hélas, compte tenu de la charge, est en arrêt maladie aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous sommes en difficulté.
Oui, un pôle criminel serait le bienvenu, c'est ce que
alors,
vous dites. Hein.
Ou du moins, un juge qui n'aurait pas trop non plus d'affaires dans son cabinet pour pouvoir gérer une telle masse d'informations et de pouvoir gérer une telle dimension hein, de dossier, puisque plus un dossier est important comme ça, plus le travail est lourd. Donc le parquet général de Bordeaux est très attentif à cette question, m'a promis qu'un juge d'instruction allait venir très prochainement ou peut-être est déjà en place. En tous les cas, ce que nous souhaitons, nous, c'est un juge qui reste en place, qui travaille ce dossier avec les moyens qui pourraient lui être donnés pour le travailler, parce que c'est véritablement une question de moyens. Là.
Alors il faut espérer, on va tout faire pour qu'effectivement un juge soit désigné dans cette enquête, ça serait la moindre des choses. On vous entend, maître Christine Maz, évidemment, je le répète, vous ne pouvez pas tout dire, vous êtes soumise au secret de l'instruction. Mais le fait est, c'est qu'on sent chez vous une espèce de vent d'optimisme. On a bon espoir que les choses avancent et qu'on arrive à resserrer le cercle de l'assassin ou des assassins.
Tout ce que je peux dire, c'est que dans cette enquête et les derniers éléments, après les dernières gardes à vue, laissent à penser que nous avons une orientation qui n'a jamais été, jusqu'à ce jour, investiguée et qui est une orientation très importante. Nous n'avons pas la preuve clairement établie dans ce dossier, mais nous avons des éléments d'enquête qui doivent perdurer et qui doivent prospérer. Et c'est parce que ça va prospérer que nous allons y arriver. Voilà ce que je pense.
Donc il y a de l'optimisme chez vous. C'est important de le souligner dans ce paysage un peu difficile.
Oui, l'optimisme, je ne sais pas si c'est cette notion-là, mais en tous les cas, de vous dire que ni la famille ni moi-même n'avons lâché. C'est quelque chose d'important de vous dire parce que nous sommes dans cette voie-là. Nous ne lâcherons pas et nous ferons en sorte d'y arriver. Et ça, c'est pour Carmen qui attend la vérité, comme elle le dit avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose d'important que je porte tous les jours un petit peu plus avec moi.
Et on entend bien votre émotion parce que effectivement, Carmen Parra, c'est la maman. Et c'est votre maman, David Parra, et la maman de vos frères. Comment est-ce que vous vivez cette épreuve depuis autant d'années? Je suppose qu'il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas à Paquita.
Ah oui, j'y pense tous les jours. Il m'arrive de me réveiller la nuit. Je pense évidemment à ma mère, puisque perdre pour une mère, pour un père, perdre son enfant, je pense que c'est ce qu'il y a de
pire.
C'est ce qu'il y a de pire. Hein. J'ai pu rencontrer des pères des victimes et je vois la douleur et j'ai vu la douleur de ma mère depuis 23 ans. La nôtre est une douleur également. Mais 23 ans, vous savez, les choses évoluent, vos douleurs changent, beaucoup de choses se transforment dans votre vie. Et voilà, donc c'est une mauvaise expérience que celle d'être frère de quelqu'un qui a été assassiné, oui.
Et vous avez, on écoutait maître Christine Maz, c'est d'ailleurs touchant ce qu'elle dit, elle pense à votre mère, elle pense à la douleur de votre mère, et puis elle pense évidemment à Paquita. Vous avez, comme elle, le sentiment que ça bouge un petit peu, vous qui avez suivi au jour le jour toute cette progression d'enquête?
Oui, oui, ça a bougé en juin, et puis je salue les magistrats instructeurs, le procureur et la section de recherche qui fait un travail colossal. Le problème, c'est que ainsi que le disait maître Maz, eh bien, on a une justice qui est malade, à l'instar des hôpitaux,
de manque de moyens,
manque de moyens
et... qui est réel dans cette affaire, hein, on le voit bien, il n'y a pas de juge d'instruction pour instruire un dossier criminel très important, hein, donc ça il faut le dire. Et puis peut-être en dernier mot, David Parra, il faut dire que s'il y a des personnes qui veulent se manifester, vous l'avez déjà dit, mais qu'elles le fassent.
Et je réitère d'ailleurs, je n'ai eu de cesse de le dire, hein, qu'ils contactent les services de police, ils peuvent également vous contacter, mais de façon anonyme, puisque c'est toléré par le code de procédure pénale.
Merci beaucoup David Parra et maître Christine Maz d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Un grand merci au bureau RTL de Bordeaux, Philippe Demaria qui assurait cette interview. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation.
Jean-Alphonse Richard sur RTL
et l'heure du crime.